Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu.
Gloire à toi, Seigneur.
En ce temps-là, Jean le Baptiste entendit parler dans sa prison des œuvres réalisées par le Christ. Il lui envoya ses disciples et par eux lui demanda « Es-tu celui qui doit venir ?» Ou devons-nous en attendre un autre ? Jésus leur répondit, « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue et les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés et les sourds entendent. Les morts ressuscitent et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. » Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. Tandis que les envoyés de Jean s'en allaient, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean, « Qu'êtes-vous allé regarder au désert ? Un roseau agité par le vent ? Alors, qu'êtes-vous donc allé voir ? Un homme habillé de façon raffinée ? Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans les palais des rois. Alors qu'êtes-vous allé voir ? Un prophète ? Oui, je vous le dis, et bien plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer le chemin devant toi. » Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus.
Nous sommes dans le dimanche de la joie, parce que nous nous approchons de Noël, évidemment. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle ce dimanche nous est annoncé comme celui de la joie. Il nous faut chercher dans l'Écriture et dans ce que nous recevons du Seigneur ce soir, il nous faut chercher les raisons de notre joie. Et nous pouvons tout d'abord être un peu déroutés comme Jean le Baptiste. Nous aimerions que la venue du Messie soit radicale. Vous vous souvenez de l'évangile de dimanche dernier ? Il parlait de la cognée qui est déjà au pied de l'arbre. Il parlait de la colère du Dieu qui vient. Il fallait que nous soyons prêts à accueillir le Messie parce que celui-ci allait être un juge terrible. Alors si nous avons encore dans l'oreille cet évangile le dimanche dernier, nous comprenons pourquoi Jean-Baptiste se pose question. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ? Il a prêché au risque de sa vie puisqu'il est en prison. Il a prêché la conversion et ce Jésus qu'il a désigné comme l'agneau de Dieu, comme le Messie, voilà qu'il prend son temps avec les hommes. Il n'apparaît pas comme celui qui exige, dans une radicalité foudroyante, une conversion immédiate et qui menace. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ? Et la réponse de Jésus peut nous déconcerter. Il nous renvoie à ce que ses contemporains voient et entendent. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Ces éléments-là qu'il est en train d'écrire correspondent à la réalité de sa prédication et de ses actes à lui, Jésus. Mais il renvoie aussi à ce que le prophète Isaïe avait annoncé du Messie. Bien sûr, ce Messie viendra inaugurer le règne de Dieu. Et en ce sens-là, nous pouvons attendre plus de justice, plus de fraternité, plus de solidarité. Il annonçait, par les signes qui sont décrits ici, l'inauguration de ce royaume. Mais de fait, Jésus prend son temps avec les hommes. Et comme le disait Saint Jacques dans la deuxième lecture, finalement, il nous offre la patience de Dieu pour notre conversion. S'il nous faut nous convertir, le message de Jean-Baptiste demeure. S'il nous faut nous convertir, ce sera avec l'amour miséricordieux manifesté en Jésus. Il permet aux aveugles de retrouver la vue. Il a guéri quelques aveugles. Mais nous le savons, le signe le plus fort, c'est qu'il ouvre nos yeux à nous tous. Il fait marcher des boiteux. Mais ce qui est le plus important, et pour tout le monde, c'est qu'il nous permet de nous tenir debout, que le péché ne nous entrave plus pour croire au salut, pour croire en l'espérance. Il a guéri quelques lépreux qui peuvent être considérés comme purifiés. Mais la lèpre qui nous rend malades, c'est notre péché. Et là, il nous lave dans les eaux du baptême, pas seulement l'eau du Jourdain, mais un baptême qui nous atteint au cœur, qui nous entraîne dans la vie de Dieu, qui fait de nous des fils et des filles. Les signes sont là, le Messie est là, en Jésus, nous le reconnaissons. Mais de fait, il n'emploie pas la violence que Jean le Baptiste avait annoncée. Et nous pouvons nous réjouir de cela quand nous connaissons notre lenteur, quand nous connaissons notre humaine difficulté. Le Messie que Dieu nous envoie est d'abord un Messie qui nous aime et qui nous prend tel que nous sommes pour nous faire progresser. C'est la première partie de cet évangile. Et la deuxième partie, elle nous parle davantage de Jean. Les envoyés de Jean sont repartis vers la prison de Macéronte pour rendre réponse à Jean qui a été enfermé par Hérode. Et Jésus pose la question à ceux qui sont là. Qu'êtes-vous allés voir au désert? Qui est ce Jean-Baptiste? C'est un prophète, et plus qu'un prophète, puisqu'il est précurseur. Il annonce bien le Messie. Il vient bien nous préparer à la fête de sa venue parmi les hommes. Il vient bien nous préparer à reconnaître qu'il est le Sauveur. Mais dans cette dernière partie de l'Évangile, Jésus vient nous dire aussi que le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean. Qu'est-ce que cela veut dire ? Jean a été précurseur dans ce monde pour annoncer le Messie, pour désigner le Sauveur. En ce sens-là, dans l'histoire humaine, il est le plus grand, le plus proche de l'envoyé de Dieu, le plus proche du Sauveur de l'humanité. Mais en même temps, la porte reste ouverte pour que l'un d'entre nous, l'une d'entre nous, devienne plus grand, plus grande que Jean le Baptiste. Nous sommes fils et filles de Dieu, fils et filles du royaume de Dieu, dès ce monde, puisque le Christ l'a inauguré. Il nous appartient d'être plus justes, plus fraternels, plus miséricordieux. Vous vous souvenez des béatitudes ? Eh bien, vivons des béatitudes. En ce sens-là, nous serons plus grands que Jean le Baptiste, parce que par nous, le royaume de Dieu adviendra davantage en ce monde. Et voilà les motifs de notre joie. Le Messie patiente avec nous, le Messie est bien là, il est venu à Noël, il est bien né parmi nous, homme parmi les hommes, et Sauveur. Les signes parlent pour le désigner. Et en même temps, il compte sur nous pour que ce royaume qu'il a inauguré grandisse dans ce monde. Notre joie, c'est de voir que l'amour de Dieu gagne les cœurs. C'est de voir que des hommes et des femmes se relèvent. C'est de voir que son salut donne espérance et confiance à beaucoup. Un motif de joie dans notre paroisse, par exemple, vous l'avez vu dimanche dernier, c'est que 15 enfants en âge scolaire, que leurs parents n'avaient pas présentés au baptême, 15 enfants ont demandé le baptême. Demain, à messe de 11h, il y aura 2 lycéens de l'enseignement public à demander le baptême. Et tant d'autres motifs de joie, tous les couples qui se préparent au mariage, alors que nous connaissons tant de couples qui se séparent, tant de familles qui peinent. Nous pouvons nous réjouir encore de l'œuvre du Secours catholique. À la porte de l'église, vous avez encore un petit stand pour vendre des bougies. Eh bien voilà comment se propage l'amour de Dieu, sans grand éclat, mais avec une proximité envers ceux qui peinent. Et puis Béata est parmi nous, nous pouvons aussi parler de tout le travail qui se fait auprès des malades, discrètement. L'aumônerie de l'hôpital a toujours besoin de bénévoles pour rouler les malades vers la messe ou pour les visiter de semaine en semaine. Voilà le royaume de Dieu et voilà nos motifs de joie. Nous devenons un peu plus vieux, un peu plus pauvres, mais il y a encore la petite étoile qui brille dans le ciel et qui désigne le Messie.